Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Travail à cœur. Je suis Marilyn Gomez et c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire en exclusivité sur Radio Cause Commune. Au programme du jour, nous allons aborder le thème « Peut-on bien manger avec une restauration collective ?» Le restaurant d'entreprise est un incontournable de l'heure du midi. Mais que retrouvons-nous dans notre assiette ? Les plats servis sont-ils vraiment qualitatifs ? La restauration collective représente une véritable industrie, un enjeu économique. Du producteur au serveur, c'est toute une machine qui se met en place pour proposer des repas abordables et variés. Mais ce que nous connaissons moins, ce sont les coulisses de cette industrie. Comment elle fonctionne, ses secrets de gestion et comment chacun d'entre nous peut avoir son mot à dire. En tout cas pour ceux qui consomment ces repas. Sujet d'intérêt général, la restauration collective est un outil de santé publique. À une époque où nous cherchons à manger plus sain, plus bio, plus équilibré, nous allons tenter aussi de comprendre si nous pouvons bien manger au restaurant d'entreprise. Pour mieux cerner ce sujet, avec nous cette semaine, Sylvie Masse, médecin nutritionniste, et Laurence Dalboussière, secrétaire générale de la CFE-CGC d'Orange, qui seront en ligne dans la première et la deuxième partie de notre émission. Jean-Claude Delgène, président fondateur du groupe Technologia, cabinet spécialisé dans la prévention des risques professionnels. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Et Jean-Jacques Azin, consultant expert en restauration collective. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
La restauration collective semble diverse et répond à différents publics. Entreprises privées, secteur public, milieu scolaire et universitaire, résidences seniors, pour n'en citer que quelques-uns. Jean-Jacques Azin, pouvez-vous nous donner des ordres de grandeur pour permettre aux auditeurs de se situer ? Combien de repas sont-ils servis en France par la restauration collective ? Y a-t-il des similitudes et des invariants entre ces publics ?
Oui, alors la restauration collective en France, c'est 3 milliards de repas par an. Donc c'est pas mal. On pourrait considérer qu'il y a un tiers en scolaire, tout compris, hein, de la maternelle à l'université, un tiers en entreprise, un tiers à l'hôpital. Hôpital et médico-social, donc maison de retraite, etc. Donc c'est un très gros marché, si on le regarde en entreprise privée de restauration. Et puis c'est un très gros enjeu de santé publique, parce qu'en fait c'est quand même une bonne part des repas servis hors foyer. Et puis c'est une grande part des repas du midi, puisqu'en général c'est ceux du midi qu'on prend, en tout cas en restauration d'entreprise.
Il paraît qu'un repas sur deux en France est issu de la restauration collective. Jean-Jacques Azin, combien de millions d'euros de chiffre d'affaires représente cette industrie ?
Oh, globalement, plusieurs centaines de milliards, ou plusieurs dizaines de milliards, puisque je vous l'ai dit, le nombre de repas qui existait. Donc, ensuite, il faut rentrer un peu dans le détail de ce que ça représente. Alors, ça représente une possibilité de développement de filières agricoles, mais ça peut aussi être exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait venir que des produits industriels de l'étranger dont on ne sait pas ce qu'ils sont. Et puis on découvre tout à coup que un jour, il y a des lasagnes au cheval alors qu'on pensait que c'était du bœuf. Je ne sais pas que c'est mal, hein, les chevals, mais le cheval, ça se vend pour du cheval, ça ne se vend pas pour du bœuf, même si c'est moins cher. Et puis, on pourrait valoriser une agriculture durable et puis faite de bon sens où on utilise moins de pesticides. Et puis finalement, ce n'est pas exactement ce qui est fait aujourd'hui. Donc la dernière loi qui a été votée, qui concerne quand même pas mal la restauration collective et en tout cas beaucoup les relations économiques entre agriculteurs, producteurs et puis le reste du monde économique, beaucoup la grande distribution, mais aussi la restauration collective, qui a été voté, institue un certain nombre de règles, de tendances, qui sont des leviers pour améliorer tout ça.
Et combien d'emplois dépendent de la restauration collective ?
Alors, je n'ai pas exactement les chiffres, mais beaucoup d'emplois sont dans la restauration. Et puis, il faut regarder aussi la manière dont sont faites ces restaurations collectives. Ce n'est pas du tout pareil quand on a des restaurations, des grandes cuisines centrales, où il y a par exemple jusqu'à 20, 30, 40, 40 000 repas, 50 000 repas. Il y a des sociétés de restauration collective qui font des cuisines centrales qui font 50 000 repas. Donc bien évidemment, on va concentrer une population. Et puis de l'autre côté, il va y avoir des gens qui font du service. Et puis dans des restaurants d'entreprise assez classiques, mettons 300, 400 personnes qui sont servies, et bien là, vous allez avoir 6, 7, entre 6 et 10 personnes par exemple qui viennent, qui vont travailler les produits, cuisiner vraiment. Ou alors ouvrir des boîtes, mais parfois cuisiner vraiment, et donc on peut avoir ça, et puis des agents qui sont au service et qui sont directement au contact des convives. Donc c'est quelques centaines de milliers de personnes qui travaillent dans la restauration, sont sur des fonctionnements très très différents en fait, comme d'ailleurs dont on voit dans un restaurant commercial, hein, comme on dit commercial quand on dit pas collectif, c'est le jargon classique autochtone.
Y a-t-il des modes de fonctionnement différents par rapport aux différents secteurs publics, privés, scolaires? Est-ce qu'il y a des modes de fonctionnement différents?
Oui, alors il y a deux modes de fonctionnement généraux. Il y en a un qui est que les convives ou ceux qui les représentent, donc l'entreprise ou le conducteur d'entreprise, ou bien l'hôpital, ou bien la municipalité, gère par elle-même. Donc on appelle ça gestion directe. Et puis il y a une deuxième partie qui est une gestion déléguée où on fait appel à une société de restauration, comme une société de restauration commerciale. La proportion est très très différente qu'on soit dans l'hospitalier où pour le coup il y a peut-être 20% de délégation, en scolaire où on va dire il y a une grosse moitié qui est en gestion directe et puis une petite moitié en gestion déléguée, donc déléguée à des sociétés, et puis en entreprise on est à 70% en délégation et il n'y a que 30% qui gèrent par elles-mêmes. Dans ceux qui gèrent par eux-mêmes, par exemple, il y a la BNP, alors que la Société Générale, elle délègue. Il y a la RATP, alors que d'autres entreprises publiques vont pouvoir déléguer. Puis il y en a qui ont ouvert des restaurants inter-entreprises, parce que dans leur entreprise, ils ont la place pour faire un restaurant, mais ils n'ont pas beaucoup de gens, pas beaucoup de clients, on va dire, si on regarde ça en termes de modèle économique. Et que donc, pour équilibrer leurs comptes, ils ont cherché à rentabiliser un peu leur équipement. Et donc, ils ouvrent à d'autres entreprises qui, elles, n'ont pas de surface et n'ont pas les moyens de se construire un restaurant. Donc, plutôt que de dire aux gens, vous pouvez aller manger dans la salle 22 à vos gamelles, ou alors sortir juste avec des tickets restaurant et acheter un kebab, un sandwich ou un plat, on va aller plutôt dans ce restaurant-là. Il y a une offre complète, équilibrée, saine et bonne. Et si elle peut être juste aussi, c'est encore mieux. Et c'est ça, normalement, qui est l'enjeu de la restauration collective, telle qu'elle était conçue au départ dans la première coopérative de restauration lancée par Eugène Varlin en janvier 1868. Donc, c'était déjà pour ces raisons-là, avoir une restauration de qualité, servie proprement, et où on n'a pas l'impression de se faire avoir par son patron et le gérant de la gargote dont Eugène Varlin parlait.
Et est-ce que cet idéal, en pratique, il se maintient toujours ?
L'idéal, il se maintient toujours. Par contre, là, on arrive un peu plus à l'approcher que les 8000 adhérents de la Marmite, qui était la coopérative créée par Eugène Varlin à Paris, qui n'a connu que 3 restaurants. On arrive à l'approcher, mais on trouve le pire et le meilleur, on peut le dire. Il y a vraiment le pire. Puis, il y a vraiment le meilleur. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on produit vraiment tout, où on cherche les produits, où on va intégrer du bio, des produits sous label de qualité, des produits avec un ajout nutritionnel comme des produits bleu blanc cœur qu'on trouve maintenant dans le commerce. Et puis, on va chercher des produits de saison parce que ce n'est pas tellement la peine d'aller chercher des tomates en ce moment, en janvier. De toute façon, elles n'ont pas de goût, elles sont chères, et elles viennent de loin. Elles n'ont aucun intérêt nutritionnel réel. On doit pouvoir trouver mieux. Et même en hiver, on peut utiliser des légumes d'hiver et des fruits d'hiver aussi.
Et pour la restauration scolaire, je pense qu'il y a quand même une différence à faire entre la restauration qu'il y a au niveau du travail, où en fait, très souvent, les salariés sont représentés par des organisations syndicales et donc peuvent peser sur la qualité des repas, parce qu'il y a toujours la menace de changer d'opérateur lorsque la restauration collective est sous-traitée à une entreprise, à une grande entreprise. En général, il y a 4 ou 5 grandes entreprises. Mais pour la restauration scolaire, est-ce qu'il y a la même qualité que pour récurrente, parce qu'on nous dit que la restauration scolaire est quand même vraiment le parent pauvre de la restauration collective.
Moi, on ne me dit pas que c'est la restauration scolaire, on me dit que c'est celle de l'hôpital, mais c'est parce que chacun voit un peu midi à sa porte. Non, dans la restauration scolaire, il y a quand même aussi un rapport de force, on va dire, sous-jacent qui existe, c'est celui entre les parents et le maire, dans la restauration, dans le primaire, donc école, maternelle et élémentaire. C'est la mairie qui gère. Et le maire, il est élu. Et il est élu par qui ? Par des actifs, beaucoup. Les actifs en question sont parfois parents d'élèves, et s'ils ne sont pas contents de la restauration, ils le font assez souvent savoir. C'est pour ça d'ailleurs que, en ce moment où on prépare les municipales, il y a pas mal de discussions sur la restauration collective, et machin vient sur le bio, puis il y a quelqu'un qui rajoute qu'il va faire ça gratuit, et puis un troisième qu'il va prendre que des produits locaux. Bon, enfin, il faut encore qu'il y ait des produits locaux. Hein. Et puis, il faut qu'ils puissent les acheter alors qu'on a des marchés publics à respecter, et donc c'est un cadre assez contraignant, mais qui ne nous interdit pas d'acheter des produits frais, ne nous interdit pas d'acheter des produits locaux, il ne nous interdit pas d'acheter des produits de bonne qualité. Il y a une gestion aussi d'arbitrage entre le coût de tout ça et puis ce qu'on fait payer. Et dans la restauration scolaire, on peut se dire grosso modo un repas ça coûte 10-11 euros, il y a 2 euros maxi dans l'assiette, en denrées. Et puis le personnel coûte un peu plus de 50% de tout ça, plus l'encadrement, puisque pour le coup, contrairement à la restauration d'entreprise, dans les écoles, il y a des animateurs, des surveillants de cantine, des gens comme ça. Voilà, donc il y a d'autres moyens de se faire entendre. Il y a cette manière parentale. Et puis, puis je pense que les élus ont à cœur dans beaucoup d'endroits de savoir ce qu'ils servent. Et puis de se prévaloir de ce genre de modèle. Donc, tous, bien évidemment, ne le font pas. Et puis, il y a quand même, voilà, entre ce qu'on a aujourd'hui et puis ce qu'on voudrait avoir, il y a quand même un grand chemin.
Et en ce qui concerne les évolutions du marché aujourd'hui, vous disiez, il y a le mieux et il y a le moins bien. Est-ce qu'on va plutôt vers le moins bien ou est-ce qu'on va plutôt vers le mieux ?
Il y a deux chemins qui sont contradictoires, mais qui se rejoignent. En fait, on utilise de plus en plus de produits industriels et de plus en plus de produits transformés pour plein de raisons. Des raisons de temps, des raisons de commodité, voilà, pour pas mal de raisons. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de savoir ce qu'on utilise et ce qu'on achète. Et pour ça, il y a, comme il y a des applications qu'on utilise en supermarché maintenant, hein, Yuka, Siga. Mmh. Il y a des applications qui montrent, qui cherchent, par exemple, à déterminer les produits ultra transformés, les produits avec beaucoup d'intrants, beaucoup de pesticides, des choses comme ça. Donc, on doit pouvoir suivre cette ligne quand même de non-détérioration, y compris quand on cherche un peu de produits industriels. Mais il y a aussi une tendance à rechercher des produits frais. Et si on cherche des produits locaux en circuit court, donc on achète directement au producteur, on prend des carottes brutes. Il va falloir les éplucher, les laver, les éplucher, les faire cuire, les couper, faire tout ça, quoi. Et ça, c'est une grande tendance qui existe aussi et qui va se rejoindre parce qu'en fait, on ne va pas exploser le personnel, c'est-à-dire le nombre d'agents qui vont travailler en cuisine. Ça, c'est sûr. Mais par contre, d'abord, il peut y avoir un peu d'arbitrage pour ne pas toujours serrer les boulons et rendre fous les gens. Et puis, deuxièmement, on doit pouvoir quand même donc leur faire faire un certain nombre de choses. Et si on peut arbitrer, ça veut dire leur faire éplucher des carottes, mais pour le coup, ils ne vont pas faire tel plat entier. Ils vont se servir de quelques petits trucs industrialisés ou un peu améliorés. Et puis, voilà. Donc, je pense que ces deux choses peuvent se combiner et qu'on doit pouvoir arriver à une amélioration de la qualité de l'assiette, en tout cas.
Nous allons maintenant accueillir Sylvie Mass, médecin généraliste et nutritionniste. Bonjour Sylvie Mass. Vous êtes médecin généraliste et nutritionniste. Aujourd'hui, nous déjeunons sur le pouce. Quels conseils pourriez-vous donner pour être plus en accord avec le rythme biologique ? Peut-on manger sainement dans ces conditions ?
Alors, sur le pouce, ça veut dire qu'il y a un temps réduit. La pause déjeuner, d'après ce que je sais, est en moyenne de 30 minutes hein, pour les gens qui déjeunent sur leur lieu de travail ou à proximité, ce qui fait un déplacement compris, ce qui est assez court. Donc, sur le pouce, ce serait aussi de pouvoir rallonger un tout petit peu ce temps, prendre le temps de savoir ce qu'on mange, vraiment regarder ce qu'on a dans son assiette et éviter les troubles digestifs quand on mange sans prendre conscience de ce qu'il y a dans l'assiette. Et puis surtout, ce que je crois utile, c'est de prendre un petit temps pour respecter le début de la digestion qui consomme beaucoup d'énergie, disons dans la première demi-heure après le repas. Et donc quand on est sur son lieu de travail, de faire des tâches assez minimales, voire si c'est possible, si ça rentre dans les habitudes, une petite sieste qui permet de récupérer de cette diminution de l'énergie cérébrale, on va dire.
Sylvie, quels sont les conseils que vous donneriez en matière de gestion justement de son alimentation pour la restauration scolaire, à part, je dirais, le fait de peut-être prendre un peu plus de temps?
Alors, les restaurations collectives en général, il y a beaucoup de quantité, c'est un peu difficile d'y trouver de la qualité, et surtout, il y a beaucoup de produits transformés. Le programme national Nutrition Santé 2018-2022 recommande d'ailleurs la diminution de la part des produits transformés de 20%. Ça veut dire qu'il en reste encore beaucoup. Donc le conseil minimal, c'est d'éviter les produits transformés le plus possible, c'est-à-dire manger simple, manger diversifié, sans, comment dire, en écoutant un petit peu son besoin.
Pourquoi une bonne alimentation et un environnement de qualité sont-ils importants pour les salariés ?
Tout simplement parce que alimentation, mode de vie et rythme ont une influence sur les facteurs de stress biologiques, j'entends. Il faut savoir que les rythmes biologiques sont liés entre eux, c'est-à-dire les rythmes de repas entraînent d'une certaine façon les rythmes veille-sommeil. Donc, respecter un petit peu ses propres rythmes, c'est aussi améliorer son état de santé, éviter le développement de maladies chroniques. Et par exemple, manger très rapidement ou manger dans le bruit sont des facteurs de stress qui aggravent, disons, l'impact d'une alimentation, comment dire, transformée sur les maladies chroniques, notamment pour les maladies métaboliques, hein, mais aussi les pathologies immunitaires, les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, les troubles digestifs. Vous voyez, on a une grande variété de manifestations possibles de l'impact de l'alimentation sur l'état de santé au quotidien.
Donc, en fait, pour éviter les impacts négatifs d'une alimentation qui n'est pas saine, il faut rester très vigilant et exigeant. C'est votre conseil.
Écoutez, alors une alimentation saine, encore une fois, c'est un peu compliqué ce terme de sain parce qu'il y a trop d'injonctions de la part de la santé publique, si vous voulez. Une alimentation saine, c'est d'abord une alimentation qui est hygiénique, c'est-à-dire qui évite les gastroentérites et les infections alimentaires. Une alimentation saine en titre individuel, c'est une alimentation qui permet à chacun de mener sa journée sans avoir trop de variations dans l'apport énergétique, c'est-à-dire de manger à intervalles à peu près réguliers, de pouvoir faire des pauses, genre pause goûter vers 17-18 heures, puisqu'on a une hypoglycémie naturelle, et ainsi respecter ses propres rythmes et prendre le temps, c'est-à-dire donner du temps au temps.
Jean-Jacques, voulez vous poser une question, Jean-Jacques Azan?
Oui, bonjour. Bonjour. Je revenais juste sur le goûter, c'est-à-dire qu'il y a l'importance de prendre les quatre repas, le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Ces quatre éléments-là sont constitutifs d'un bon équilibre et évitent beaucoup le grignotage aussi, hein, qui est, lui, pour le coup, très contre-productif pour l'énergie et très mauvais pour tout ce qui est prévalence de l'obésité.
Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord, le petit déjeuner, il est souvent sorti, enfin disons évité, parce que les gens partent très tôt avec les grands trajets, etc. Donc ils n'ont pas très faim au réveil. Moi, je recommande de manger en arrivant sur place. Et puis surtout, n'ayant pas assez mangé, justement, n'ayant pas fait ce goûter qui est vraiment salvateur, les gens ont tendance à manger un peu trop le soir et donc ils n'ont pas faim le matin. Donc vous voyez, en termes de rythme biologique, on a des effets dominos un petit peu qui altère les rythmes de repas. Et donc, réécouter ces rythmes-là, ça remet un petit peu de dynamique.
Je voulais rebondir un peu sur ce que vous disiez, oui, parce qu'il y a quelques années, j'avais eu une mission d'expertise à réaliser dans une société où il y avait beaucoup d'accidents de travail. Et en fait, oui, c'est une société qui se trouvait dans les Alpes. Les gens venaient de pas très loin, mais avec l'hiver, avec l'état des routes, la neige, etc., ils devaient partir assez tôt. Et comme ils commençaient très tôt, effectivement, ils supprimaient souvent le premier repas. Ce qui fait que arrivant au travail, il commençait à travailler le ventre vide et il y avait beaucoup d'accidents du travail. Et ouais. Une des solutions, c'était justement d'imposer, on a conseillé à l'employeur, pour limiter à la fois l'absentéisme et les accidents du travail, de donner une collation quand les gens arrivaient. Ouais. Et on a fait chuter de manière très drastique le nombre d'accidents du travail. Vous voyez, donc c'est effectivement, on est sur la même ligne. Je crois que la restauration, l'alimentation permet d'avoir une prévention des risques professionnels.
Absolument. Alors là, à tous les niveaux. Alors les accidents du travail, je connais moins, mais je connais en région parisienne, en ce moment avec les grèves, il y a beaucoup de gens qui font des malaises voyageurs, vous voyez, en fait, on se doute un petit peu que c'est des gens qui n'ont pas pu prendre leur petit déjeuner, qui sont longtemps debout, etc. Donc tout le système neurovégétatif est complètement bouleversé, sous stress en termes de biologie. Et effectivement, prendre une petite collation en arrivant, au minimum, permettrait d'avoir, une meilleure présence à soi et à son travail.
Alors, on a beaucoup parlé du manger, mais on n'a pas parlé du boire. Quelles sont, en fait, les recommandations à ce niveau-là?
Alors, le boire, pas d'alcool sur le lieu de travail, c'est déjà un minimum. Hein. Ouais. Après, sur les boissons sucrées, je ne peux être que très réservée, parce qu'elles donnent, mais y compris les boissons édulcorées, parce qu'elles donnent des espèces de pics d'insuline qui fatiguent énormément et puis qui réclament plus de sucre après. Mmh. Et puis, bien s'hydrater, évidemment, surtout quand il y a de la climatisation. Et s'hydrater très régulièrement, ça permet aussi de ralentir un petit peu les facteurs de stress, encore une fois, que j'appelle biologiques. Hein, je ne parle pas des stress interrelationnels.
Et dans votre activité, vous avez, en prodiguant des conseils en tant que médecin, y compris nutritionniste, est-ce que vous avez constaté des améliorations lorsque les gens suivent, vos patients suivent ces conseils?
Ah oui, c'est ce qui est caricatural, vraiment. Ouais. C'est le petit goûter avec quelques fruits à coque, un fruit frais, etc. Ce goûter-là permet aux gens de se défatiguer, mais vraiment. Et donc de finir, surtout les journées longues, de finir leur journée avec plus d'aisance et de rentrer chez eux en n'ayant pas envie de se jeter sur le pain et le fromage, vous voyez. Donc là, il y a une vraie amélioration. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des problèmes de poids, plutôt à tendance à perdre du poids.
Ah d'accord, très bien. Marie-Lie ?
Voilà, ça se voit très rapidement.
Ah, très bien.
Nous parlions, Sylvie Masse, tout à l'heure, nous parlions de la question du temps. Dans un monde accéléré, le temps du repas est parfois sacrifié au profit de la productivité. Est-ce que c'est une erreur? Comment voyez-vous cette question?
Déjà, productivité et temps, là, on est sur une aporie, quelque chose qui ne fonctionne pas, puisque le système est construit, hein, les systèmes de travail, les entreprises, etc., sont construits pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure productivité, compétitivité, ça c'est les grands mots du monde actuel, ça ne fonctionne pas avec les rythmes propres des humains. Nous sommes des êtres vivants, comme tout être vivant, il y a des phases où on peut avoir une extrême concentration et on peut produire, entre guillemets, et d'autres phases où on est moins productif. Et donc, la mise en urgence de tous les dossiers au quotidien fait que la plupart des gens mettent en dernier leurs besoins fondamentaux. Et ça, c'est une erreur, parce que ça ne marche ni pour les individus, ni pour les entreprises.
Ça peut déboucher d'ailleurs sur des problèmes assez graves, cardiovasculaires, AVC, infarctus, etc. Alors, je pense qu'il faut souligner.
Oui, oui. Oui, j'ai cité les maladies métaboliques, cholestérol, diabète, hypertension beaucoup, et les troubles plutôt psychologiques, mais aussi les troubles immunitaires. Et dans les troubles immunitaires, je mets les cancers. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose qui est multifactoriel, mais avec un point commun, c'est-à-dire le tempo, les moments d'alternance entre activité, petite relaxation, activité, petite relaxation. On sait que nous avons des rythmes de journée qui sont un peu calqués sur le rythme du sommeil la nuit. Hein, on a le sommeil léger, le sommeil profond, sommeil paradoxal, etc. Et il y a à peu près ce même rythme. On a des moments de coup de mou, si je puis dire, qui peuvent durer un quart d'heure, 20 minutes. Et si on est en train de pousser la machine, entre guillemets, pendant ces coups de mou, eh bien, ça constitue des facteurs de stress. Alors, ce que je dis, effectivement, est un peu difficile à rendre compatible avec les exigences actuelles dans le monde du travail, où le temps de travail est très déterminé sur des journées plutôt longues, en tout cas en région parisienne, ou ce que je connais moins, comment dire, des travaux manuels qui doivent être finis en temps et en heure.
La restauration scolaire, d'ailleurs, a été créée pour ça. C'est-à-dire que, en fait, il y a un moment, hein, donc il y a quelques dizaines d'années, les enfants, ils venaient des champs, comme la grande majorité de la population. Ils repartaient aux champs, ils aidaient leurs parents. Et en fait, on a installé la restauration scolaire, les cantines à l'époque, pour que les enfants déjà ne repartent pas, et puis pour qu'ils puissent se ressourcer et qu'ils puissent recommencer une journée. Donc, sans ce repas, on sait très bien que, de toute façon, les enfants ne peuvent plus être attentifs, n'ont pas réactualiser leur petit logiciel interne pour pouvoir se réintéresser à ce qu'on va leur présenter. Et puis, on suggère tous qu'il y ait des activités beaucoup plus calmes après, pendant toute la période post-prandiale, pour que, justement, ils ne soient pas mis sous stress total, et puis où on leur demanderait des activités de concentration alors qu'ils sont totalement incapables de les avoir, tant qu'ils viendront un peu plus tard dans l'après-midi.
Oui, alors ça, c'est les travaux qui sont complètement validés depuis plusieurs années par les chronobiologistes, notamment à l'école. Hein. Bien sûr, on ne peut pas imaginer des enfants qui resteraient sur un temps scolaire de je ne sais plus combien d'heures, 4 le matin, 4 le soir, un peu moins maintenant, bon, 3 et 3, sans avoir un apport nutritionnel. Ils bougent beaucoup, enfin c'est encore plus flagrant pour les enfants que pour les adultes, hein, effectivement. Mais pour les adultes, c'est la même chose.
Mais écoutez, merci beaucoup, Sylvie Mas.
Merci, Sylvie Mas, pour votre participation.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Maintenant, un moment de pause musicale.
Cause commune. Thank you.
écouter Tifortou de Benny Goodman Quartet. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, émission Travail à cœur. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder la gestion dans la restauration collective, notamment l'importance des élus pour le choix des repas. En direct avec nous, nous avons Laurence Dalboussière qui est maintenant en ligne. Elle est la secrétaire générale de la CFE-CGC, première force syndicale chez Orange. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Quel est le pouvoir et le rôle des élus du personnel au CSE dans la gestion de la restauration collective ?
Mais ils ont un rôle extrêmement important puisque en fait ce sont les élus du CSE qui vont décider en fait tout ce qui concerne la restauration. Puisque en fait les cantines, comme on les appelle, ou la restauration d'entreprise, c'est considéré comme une activité sociale et culturelle. Et à ce titre, en fait, ce sont les CSE qui ont le monopole exclusif en fait de cette activité sociale. Et donc, en fait, ils peuvent soit le gérer ou gérer les cantines directement, soit effectivement les confier à des prestataires qui vont prendre en charge cette gestion pour eux-mêmes. Donc, ils ont vraiment un contrôle à 100% en fait de ce qui se passe au niveau des cantines et donc du choix de ce qui est proposé aux salariés.
Et l'employeur, dans ce choix-là, est-ce qu'il a aussi son mot à dire ou est-ce que, in fine, la responsabilité sera au CSE ?
Alors, ça dépend des configurations. Il y a certaines entreprises où, en fait, il y a des groupes d'intérêts qui sont montés entre l'employeur et les CSE. Et dans ces cas-là, effectivement, le choix, il est co-construit entre l'employeur et le CSE. Mais in fine, c'est bien le CSE qui a la main et le contrôle complet sur cette activité. Alors, il y a parfois quelques employeurs qui ont un peu plus de difficultés à donner la main au CSE, mais néanmoins, en fait, il y a quand même une volonté à la fois de la part de l'employeur et à la fois de la part des CSE de travailler dans le même sens, puisque en fait, c'est quand même considéré comme une activité qui doit améliorer, c'est écrit comme ça dans le Code du travail, le bien-être des salariés. Donc, c'est une cause commune à la fois pour l'employeur et à la fois pour les CSE.
Et le choix de repas dépend-il des élus ou est-ce qu'il est imposé par les sociétés de restauration qui sont le plus souvent sous-traitantes ?
Alors, les sous-traitants, quand ils sont choisis, ils sont soumis à des cahiers des charges qui sont plus ou moins précis. Et donc, j'allais dire quand même que, effectivement, les élus de CSE ont un impact, en fait, sur le choix des menus et, en fait, ce qui est proposé. Alors, par exemple, avant, il y avait quand même une tradition française du repas avec entrée, plat, dessert. Mais les élus ont un choix, en fait, ou un impact sur, effectivement, ce qui va être proposé. Donc, combien de plats de résistance, combien d'entrées, combien de desserts. On s'aperçoit aussi que les salariés ont beaucoup évolué, en fait, dans leur goût culinaire, on va dire ça comme ça, et qu'aujourd'hui, on ne recherche plus forcément l'entrée plat dessert et qu'il y a beaucoup de salariés qui ont plus de contraintes alimentaires. Donc, il y en a qui ont des allergies, par exemple au gluten. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de salariés qui ont du diabète sur lequel il faut faire des repas adaptés. Et donc, tout ça, en fait, effectivement, dépend du cahier des charges. Donc, le CSE va avoir un impact aussi sur la part du bio dans les repas, sur aussi la part du local, et va avoir aussi un impact assez important au niveau de la RSE, puisque, par exemple, chez Orange, dans le cahier des charges qui est imposé aux prestataires, il y a aussi le fait d'avoir le moins de déchets possible pour effectivement avoir le moins de gaspillage alimentaire possible. Donc oui, les élus CSE, même si ce n'est pas eux qui sont à la cuisine, effectivement, ils ont une part et un impact important en fait dans le choix des menus, dans les composants et dans la liberté qu'ils peuvent avoir.
C'est un gros travail donc pour vous, cette activité sociale, en fait, puisque ça vous oblige à la fois, bien sûr, superviser la qualité des repas qui sont distribués aux salariés, ça vous oblige à des actes de gestion, à des actes de rencontres, de négociations avec les uns et les autres, ça doit vous prendre beaucoup de temps, non ?
Oui, la restauration, alors oui, ça prend du temps et c'est assez technique. Néanmoins, dans la plupart des situations, en fait, il y a une partie, c'est souvent sous-traité à des grands professionnels, en fait, donc aux sociétés qui font de la restauration collective. Et d'ailleurs, on peut voir, en fait, que quand on discute directement avec les cuisiniers, que ce sont des gens qui sont extrêmement bien formés, parce qu'il y a souvent des cuisiniers au sein des restaurants d'entreprise qui ont fait leur classe, en fait, dans des grands restaurants étoilés. Donc, oui, ça prend du temps, mais en même temps, c'est vraiment un élément important parce qu'il y a quand même s'il y a de plus en plus de salariés qui sont en télétravail et donc qui finissent par manger chez eux, il y a quand même cette volonté et ce besoin de pouvoir échanger avec son équipe. Et peut-être que justement, parce qu'il y a beaucoup et de plus en plus de télétravail, il y a d'autant plus ce besoin de convivialité au moment du déjeuner.
Et est-ce que les salariés se rendent vraiment compte de l'activité que déploient les élus à leur profit en matière de restauration collective ? Ou est-ce que, en fait, c'est assez banalisé ?
La restauration, ça a un impact comme l'ensemble des ASC. C'est-à-dire que si vous délivrez des choses qui ne sont pas de qualité, effectivement, il y a une chance pour que une autre organisation syndicale soit élue à votre place par rapport à ce que vous défendez. Dans un cadre, en fait, plus collectif, comme on peut avoir dans une grande entreprise comme la nôtre, en fait, l'impact est quand même minoré. Parce que même s'il y a un impact, en fait, c'est pas complet, parce que c'est pas les élus qui font la qualité directement des repas. Et que si jamais, en fait, la qualité diminue trop, et en fait, nous, on a un contrôle qualité une fois par an avec de grandes enquêtes pour voir effectivement si la qualité perçue, hein, bien évidemment, augmente ou baisse. Et tous les trimestres, en fait, il y a une analyse aussi des cahiers de remontée des salariés. Donc, c'est quelque chose qui est piloté au fur et à mesure. Ouais. Après, mesurer l'impact de la restauration sur les élections, c'est un petit peu compliqué à dire. Oui, c'est un impact, je pense, comme le reste des ASC, tout à fait, oui.
Oui, comme la restauration scolaire a un impact sur les élections municipales dont on parlait un peu tout à l'heure. Je pense que par ailleurs, ça doit être un peu différent dans les cas où le comité d'entreprise ou le CSE gère en direct par rapport au moment où il y a des délégations. Et puis entre petites entreprises, on va dire, et grosses, c'est-à-dire si c'est dans un restaurant unique ou si c'est une entreprise qui a plein de restaurations, plein de lieux de restaurant avec plusieurs structures, certaines en gestion directe, certaines en délégation, et puis avec différents types de sociétés aussi qui ne sont pas toutes les mêmes et qui, de toute façon, d'un cuisinier à l'autre, on n'a pas exactement la même cuisine. Ce qui est intéressant, c'est si effectivement on peut avoir dans un cahier des charges des contraintes, des cadres, et puis surtout qui puisse permettre un dialogue et un dialogue assez permanent avec l'équipe de cuisine et qu'elle ne soit pas, elle, totalement enferrée dans un référentiel et dans un référencement imposé par sa société, par la centrale de laquelle elle dépend. Hein, je veux dire, genre, pour les citer les trois gros, hein, en restauration d'entreprise, hein, Sodexo, Elior et Eurest. Elles ont des référentiels dans desquels on a très difficilement le droit de sortir. Si on veut faire des cardons de je sais pas quoi parce qu'il y a un producteur à 200 km ou à 60 km ou à 20 km, s'il n'est pas du tout référencé, on peut toujours s'accrocher, on aura beaucoup de mal. Donc si on a plus de possibilités d'intervention, ça donne un autre résultat. Alors ensuite, la gestion directe, elle impose une beaucoup plus grande technicité, beaucoup plus de temps, puis une plus grande proximité avec les lieux. Donc dans une grande entreprise, avec de nombreux comités d'entreprise, comme c'est le cas par exemple chez Orange, c'est plus complexe que dans une petite entreprise qui a un seul lieu, un seul restaurant, voire qui adhère à un RIE, qui a décidé d'ouvrir...
C'est quoi un RIE ?
Un restaurant inter-entreprise. C'est des restaurants qui servent à plusieurs entreprises en même temps. Donc peuvent être ouverts par une entreprise et qui accueille d'autres, ou qui est ouvert par l'immeuble. Ceux qui gèrent l'immeuble et qui ouvrent un restaurant pour toutes les entreprises de l'immeuble, voire celles qui sont autour. D'accord. Un restaurant ouvert par une administration dans laquelle on accueille d'autres administrations, d'autres entreprises, où on paye en ticket. Bon, ça, on rentre dans un détail de monétique qui est connu par tous les gens qui vont payer, mais pas obligatoirement nos auditeurs.
Ouais. Laurence Talboussière, merci pour votre participation.
À bientôt, Laurence.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
Et maintenant, une pause musicale.
Cause commune.
93.1.
d'écouter Little Brown Young de Glenn Miller. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, émission Travail à cœur. Troisième et dernière partie de notre émission dédiée à la restauration collective. Nombre, volume, nécessité d'avoir un tarif préférentiel pour les bénéficiaires. Jean-Jacques Azin, que faut-il pour avoir des repas de qualité? Quelles sont les conditions? Comment avoir un bon repas? Rapport qualité-prix.
Alors, je crois qu'on va recommencer l'émission plusieurs fois et plusieurs semaines, mais pour aller un peu rapidement, il faut que les salariés s'impliquent par le biais de leurs élus au CSE et qu'ils contrôlent ce qui se passe et qu'ils disent ce qui ne leur plaît pas et que les élus puissent avoir un mode d'intervention, on pourrait dire de pression, surtout dans le climat actuel, mais un mode d'intervention et de dialogue avec ceux qui font la restauration, qu'ils soient salariés du CSE, qu'ils soient salariés de l'entreprise ou qu'ils soient salariés d'une société privée de restauration. S'il n'y a pas ce dialogue, je conseille de faire de la rupture. C'est-à-dire que si on n'est pas content de la prestation, qu'on ne peut pas dialoguer avec la société de restauration collective, ben on en change. Les contrats, ils sont faits pour un certain temps. Et il suffit de les prévoir dans les cahiers des charges. Un an renouvelable tant de fois. Et puis, si au bout d'un an, on n'est pas content, ben on change. C'est comme ça que ça se passe dans la restauration scolaire. Ça se passe comme ça à l'hôpital. Ça se passe comme ça partout. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur d'imposer ce qu'on veut. Donc, il faut d'abord beaucoup réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, à ses attentes, et puis à comment est-ce qu'on se donne des atouts pour transformer un peu la restauration collective qui était, qui est souvent considérée comme étant le restaurant d'antan, la cantine, on s'assoit, on est avec des grands bancs, et puis on mange ce qu'il y a comme s'il y avait un plat unique. Alors, des fois, le plat unique, c'est bien. Hein. D'ailleurs, quand on va dans un petit resto et qu'il a une carte très courte, parce qu'il s'est, il a fait attention à ce qu'il faisait et qu'il a genre un plat du jour, et puis une grillade, et puis un autre truc, ou un poisson, ou un œuf, ou un je sais pas quoi. Parce que si jamais personne, les gens, ils aiment rien, on mange quelque chose. On est assez satisfait de ce qu'on mange. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très, très large en termes de choix, souvent. Il faut juste que ça soit bon. Et ça, c'est un contrôle par les usagers, par les convives. Donc, il y a une enquête assez permanente à suivre. Et puis, il faut intervenir. Il faut intervenir aussi sur le prix, et puis sur le service, et puis sur qu'est-ce qu'on achète.
Est-ce qu'il y a une grande rotation en ce qui concerne les sociétés de restauration dont vous, puisque vous parlez du fait qu'on puisse se séparer d'eux, que les contrats le permettent, mais est-ce qu'il y a une rotation importante?
Oui, il y a une rotation importante, mais cette rotation, elle tourne entre souvent les trois leaders. Et puis, il y a quelques autres. Quoi. Il y a Happy Restauration, MRS. Il y a quelques autres grosses boîtes qui existent. Il y en a d'autres qui émergent, qui sont un peu plus petites. Par exemple, Mille et un Repas, une boîte lyonnaise, ou d'autres sociétés encore plus petites. Parce que de toute façon, des sociétés sont plus spécialisées sur des gros restaurants. 1000, 1500, etc., c'est qui existe. Hein. Et puis, il y en a d'autres qui, ça ne les intéresse pas. Elles ne font pas ce genre de choses. Donc, elles arrivent à recruter des petites équipes avec un chef cuistot qui va venir, qui va faire vraiment la cuisine, etc. Et c'est vrai qu'on ne fait pas exactement la même chose quand on a 50, 100, 200, 300 convives et quand on en a 1200.
Jean-Jacques, comment ça se passe quand une société voit son contrat rompu? La société qui reprend, elle reprend aussi le personnel, donc.
La société, elle est tenue de reprendre le personnel et elle reprend aussi parfois la fin des amortissements si c'est la société de restauration qui investit le matériel. Donc la société, elle a acheté le matériel. Il y a une part sur le ticket, des fois. Enfin, le ticket, le prix du repas. Puis d'autres fois, il y a une reprise de ces amortissements. Du coup, la société qui vient après, elle est censée reprendre. Ou alors, à moins que l'entreprise qui délègue et décider qu'elle reprenait à sa charge finalement les choses et puis que ça rentre dans un contrat un peu plus simple avec la société de restauration d'après.
Est-ce que vous pourriez, par exemple, un prix de repas, c'est combien? C'est 7, entre 7 et 10 euros à peu près, c'est ça?
Le prix global du repas, c'est 10, 11, 12 euros. C'est un peu plus qu'un ticket restaurant, on va dire.
D'accord.
À l'intérieur de ça, il y a une partie qui est la partie des denrées. Coûts fixes, on va dire, et puis il y a une partie denrées. En général, le salarié, il paye les denrées et c'est tout.
La denrée, c'est combien à peu près? 2 euros, 3 euros?
Non, un peu plus, 3, 4, 5 euros, ça dépend ce qu'on mange hein, aussi. Ouais. Puisque si le salarié achète ce qu'il paye vraiment ce qu'il mange, bien sûr, si on fait de la viande bio et puis tout bio, bah, ça va être un peu plus cher quand même que quand c'est du conventionnel basique. L'idée est quand même de ne pas chercher à avoir et du conventionnel basique ultra transformé à servir aux gens, parce que on réfléchit quand même au fait que le restaurant d'entreprise est quand même un outil de santé publique. Donc, si on veut le faire, ben, on essaye de ne pas aller du plus bas au plus haut. On essaye de monter un tout petit peu la barre.
Donc, si on a un prix à 10 euros avec un prix de denrée à 3 euros, le reste, les 7 euros, c'est où ? C'est quoi ?
Ben, les 7 euros, c'est des charges personnelles.
Ouais. Pour combien ?
Pour la moitié globalement du prix, 5, si on 10 et 10, 5 euros.
5 euros.
Ou 4 euros, il y a des prix pour le personnel de cuisine, et ouais. Puis il y a le personnel qui fait le service. Alors bien sûr, souvent quand c'est des petites structures, c'est les mêmes personnes, hein.
Ouais.
Mais globalement, il y a deux montants, quoi. Et puis il y a l'amortissement du matériel, et puis il y a les fluides. C'est-à-dire eau, gaz, électricité. Hein. Je ne parle pas du chauffage, je parle vraiment de la cuisine. L'eau, c'est pour la vaisselle. Le gaz et l'électricité, pour cuisiner. Et puis un peu pour la lumière, mais ça ne consomme pas beaucoup la lumière.
Ça, c'est les 2 euros qui restent, c'est ça ?
Oui, ça peut être les deux. Ça, c'est les 2 euros qui restent. Puis là-dedans, il y a aussi de la vaisselle, des produits d'entretien, tout ce genre de petites choses. Et puis une gestion, la gestion de la monétique. La gestion des facturettes ou des factures à l'entreprise, si c'est un restaurant inter-entreprise, par exemple. Bon, voilà. Donc, du coup, il y a... Alors, là-dedans...
Et la question des locaux, en fait, dans cette affaire.
Bah, normalement, les locaux, ils sont... La logique et l'esprit de la loi, selon moi, c'est que le restaurant, à partir du moment où l'entreprise de plus de 50 salariés ou de 25 qui demandent, est obligée de mettre à disposition un local. Elle n'est pas obligée de le louer à ses salariés, elle le met à disposition, donc ça veut dire gratuitement. Donc tout ça est normalement hors des coûts. D'ailleurs, dans les entreprises et puis dans les études générales qu'il y a sur la restauration d'entreprise, on ne voit jamais apparaître les locaux. On voit apparaître une compensation des amortissements généraux de l'entreprise quand une entreprise a créé un restaurant inter-entreprise et qu'elle permet à des salariés d'une autre entreprise de venir. Donc, elle dit, moi, j'ai payé, mais moi, je paye pour mes salariés, je ne paye pas pour les salariés du voisin. Donc, le voisin, il va mettre un petit peu au bout. Donc, il va mettre 50 centimes, 80 centimes, 1 euro, un petit euro. C'est un peu le coût d'amortissement général qu'on retrouve d'ailleurs dans les autres cadres de restauration collective.
Alors, justement, on parlait tout à l'heure avec Marilyn des coulisses des cuisines. Comment ça se passe en coulisses ? Par exemple, les sociétés de restauration, on a parlé de produits transformés. Elles achètent ces produits transformés à qui, en fait ? Qu'est-ce qui les livre ?
Alors, ça dépend beaucoup. On va prendre les plus mauvais cas, puis on va prendre les meilleurs quand même, hein, parce qu'il y a un peu, il y a tout, comme je disais. Bon, alors, il y a le cas où la cuisine ne fait pas de cuisine.
Ouais.
Donc, elle ne fait que de l'assemblage. Il y a même quand elle ne fait même pas d'assemblage. C'est-à-dire qu'elle prend, elle achète un truc totalement industrialisé, tout fait, surgelé. Elle le prend, elle le fout dans le four de remise en température, parce qu'il n'y a pas besoin de four de cuisson. Et elle se réchauffe et elle sert. Bon.
C'est pas très bon.
Bah, il n'y a pas besoin de cuisinier, surtout. On se demande pourquoi on a des cuisiniers. Dans ce cas-là, en général, on ne prend pas des cuisiniers. On prend des gens qui ne sont pas obligatoirement qualifiés. Puis on prend, puis on fait. Puis c'est fini.
Et c'est pas très bon pour ceux qui absorbent la nourriture.
Ah bah, c'est pas très bon parce qu'en général, quand on fait ça, c'est pas parce qu'on cherche à mettre beaucoup d'argent dans l'assiette. C'est parce qu'on cherche plutôt à en mettre peu. Donc souvent, quand même, c'est pas... Voilà, on ne fait pas du bien fait avec ça.
Donc un problème de qualité.
Donc on a un problème de qualité. Ensuite, il y a des cuisines qui font de l'assemblage. Donc, ça veut dire qu'elles prennent pas mal de choses et puis elles ne font qu'assembler. Et puis, il y a ensuite des cuisines, quelle que soit la structure, que ça soit de la gestion directe des employés de la société, comme à la RATP, y a les gens qui font à manger, ce sont des salariés de la RATP ou même du CE de la RATP. À la BNP, c'est des salariés de la banque qui font à manger. Je peux vous dire qu'ils font tout, hein. Ils savent ce qu'ils achètent, ils récupèrent leurs carottes, elles sont brutes, elles sont sales. Ils les lavent, ils les épluchent, ils les coupent, ils les cuisent, ils font tout. Et ils assemblent ce qu'ils ont cuisiné eux-mêmes, donc ils font le plat, ils confectionnent les plats. Comme ce qu'on cherche dans les restaurants aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher le restaurant, on dit, lui, il fait du local, c'est tout fait maison. Bon, Nous, on aurait voulu, on est un bon nombre à vouloir que dans la restauration collective aussi, il y ait une implication du fait maison. Il est d'ailleurs autorisé aujourd'hui par la loi, puisque on a dans la loi Egalim, la loi qui a été votée sur l'équilibre des relations commerciales entre producteurs et distributeurs, et puis un peu au-delà aussi, parce que les relations entre producteurs alimentaires hein, et distributeurs, c'est les mêmes avec la restauration collective. C'est-à-dire que les gens doivent pouvoir savoir ce qu'ils mangent. Si on exige qu'ils sachent ce qu'ils mangent en mettant un Nutri-Score sur les emballages de produits transformés dans les grandes surfaces, c'est pas pour qu'on leur serve n'importe quoi dans une restauration collective. Donc, il faut avoir une pression sur ce sujet.
Alors, quels sont les rapports exacts entre, par exemple, les sociétés de restauration et les fournisseurs d'alimentation ? On a parlé, on m'a parlé de certaines pratiques de marge arrière. Est-ce que vous pourriez préciser cet aspect-là ?
Oui, ça c'est comme le référencement qui existait dans la grande distribution, c'est-à-dire que les sociétés, elles mettaient en avant, elles avaient droit à mettre en avant, ou elles mettaient en tête de gondole, elles payaient pour ça, et du coup, et elles payaient sur du droit au référencement. Celui qui ne payait pas, il n'avait pas le droit d'être mis dans le rayon. Ces pratiques ont été interdites. Elles existent, c'est à peu près les mêmes qui existent dans la restauration collective. Tout ça n'est pas très, très autorisé et n'existe bien évidemment pas. Hein. Personne n'en a parlé, sauf des journaux spécialisés dans la restauration collective, comme par exemple, ou dans la restauration commerciale, comme Néo-Restauration, pour citer celui qui est le plus connu, puisqu'il aborde pas mal les questions de restauration commerciale. Donc en fait, il y a des pratiques qui font qu'on ne sait pas vraiment combien d'argent arrive sur le produit. Et ça, c'est un problème.
C'est-à-dire que pour être clair, Jean-Jacques, vous avez des sociétés de restauration, de produits alimentaires qui donc font des produits transformés, qui donc vendent à des sociétés de restauration. Et les sociétés de restauration donc affichent un coût par rapport à leurs clients, qui sont par exemple les comités d'entreprise, enfin les comités sociaux d'entreprise, les CSE, ok. Mais il n'y a pas une véritable transparence, puisque si je vous comprends bien, les sociétés de restauration bénéficient après coup d'une remise après vente de la part des fournisseurs d'agroalimentaire. C'est ça la logique.
Oui, c'est une pratique courante, mais c'est pas seulement des produits transformés. Ça peut être n'importe quel revendeur. Il y a des gros grossistes de produits alimentaires qui sont pas que qui peuvent être des produits des viandes non transformées fraîches et qui ont ce type de relation commerciale et qui sont des freins au développement des circuits courts, en fait.
Et les marges, elles sont de combien à peu près? 10, 20%
Des fois plus que ça, oui.
Et donc, le conseil que nous pourrions donner pour finir, ça serait quoi? Ça serait de dire aux élus du CSE de s'inquiéter de ces marges arrière, puisque ces restournes qui sont faites aux sociétés de restauration pourraient très bien bénéficier en matière de repas aux salariés.
En fait, le meilleur moyen de le faire, c'est d'insister sur les circuits courts. Parce que les circuits courts, ça veut dire s'adresser à une PME de pas loin et en direct. Ça évite ce genre de pratiques commerciales un peu douteuses. Et puis, il faut faire attention avec qui on traite. Des grands groupes, ils ont leurs pratiques, ils ont leur modèle économique et ils fonctionnent comme ça. Les petites structures, elles ont un autre modèle économique et elles ne savent pas fonctionner comme ça. Donc ça fait bien évidemment beaucoup plus de transparence et des relations beaucoup plus simples pour développer des produits de qualité, des produits de circuit court, des produits fermiers, des choses qu'aujourd'hui on dit qu'il faut absolument les développer, mais on est beaucoup freiné souvent par la manière dont on fonctionne.
Très bien, merci beaucoup.
Pour terminer, Jean-Jacques Azin, peut-on parler d'un savoir-faire à la française en matière de restauration collective ?
Oui, parce qu'il y a pas mal de pays où ça n'existe pas du tout. On peut surtout parler d'un savoir-faire de cuisine. Et c'est ce savoir-faire de la cuisine faite maison avec des produits sains et une cuisine propre, juste et bonne qu'il faut arriver à valoriser. Et je pense que c'est ça vers lequel tout le monde voudrait tendre. Maintenant, il faut se mettre en ordre de marche et puis il faut que les salariés prennent en main leurs affaires comme les parents le font et le font savoir, hein, puisque ça se voit assez régulièrement dans les radios, sur Facebook, etc. Il faut que les salariés prennent les choses en main. Ils ont des outils, ils ont un CSE, ils ont des organisations représentatives pour ça. Et il y a quand même pas mal moyen de faire.
Donc, pour résumer, les élus doivent être très vigilants avec les personnes avec lesquelles elles travaillent, personnes morales. Les élus du personnel doivent superviser la qualité, mais aussi les modalités de gestion, les modalités d'achat. Et surtout, ils doivent favoriser les circuits courts, y compris les circuits qui favorisent les produits bio. On est bien d'accord là-dessus ?
Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est le meilleur endroit pour faire valoir ses droits. Il y a les CSE, les droits sont reconnus.
Mais pour terminer, les élus peuvent aussi se faire aider d'experts pour analyser, je dirais, à la fois la gestion des restaurants collectifs, à la fois les méthodes de gestion des sociétés de restauration, etc. C'est tout à fait possible. C'est
oui,
un droit qu'il aurait offert.
Tout à fait, ça c'est possible. Et puis de toute façon, ils ont des fonds pour pouvoir utiliser des expertises et puis commander des expertises. Et puis il y a aussi ce regard sur nutritionnel dont même Eugène Varlin parlait en 1868, ce regard nutritionnel qui fait que bah voilà, c'est pas steak haché frites tous les jours parce que le reste est dégueulasse.
D'accord.
Merci à tous pour votre participation. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission de Travail à cœur pour être au cœur du travail.
Merci à vous.
À tous.
Merci.